Bonjour à tous et à toutes, tous ceux que j'ai pas vus. J'espère que vous allez bien. Vous avez réussi à aller plus vite que le décathlon, donc si vous êtes là, c'est que ça va. Vous êtes arrivés au moins. Alors, ce matin, je voudrais vous parler de la confiance. Comme il disait dans le cantique, habiter la confiance. Avoir confiance en Dieu. Et ça, c'est pas quelque chose qui est facile tous les jours, pour chacun d'entre nous. Avoir confiance. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi que je puisse vivre, expérimenter, avoir confiance. C'est l'un des thèmes de la Bible qui, je trouve, nous unit en fait, hein, et dans lequel nous essayons de nous y appliquer, de mettre en pratique cette confiance que nous avons en Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui est parfait, c'est le médiateur entre nous et Dieu. Il est le roi, il est aussi prophète, il est créateur, il est rédempteur, il est le premier, il est le dernier. C'est la solution, c'est la réponse à l'humanité aujourd'hui. Le propre de l'homme, c'est de rejeter Dieu. Ça, c'est connu. C'est de ne pas lui faire confiance. Et c'est surtout, c'est de mettre en avant ses pensées et surtout pas celles de Dieu. La vie chrétienne, c'est une marche de confiance. Et cette confiance, c'est la foi qui triomphe du monde. C'est pas une foi vague. C'est pas une foi qui croit tout simplement. Parce que beaucoup parlent de Dieu, mais ne le connaissent pas. Après tout, même le diable y croit en Jésus-Christ. Mais Dieu désire en nous une foi qui s'appelle confiance. Vraiment confiance. Je vais vous lire le Proverbe chapitre 3. Où Dieu, à travers sa parole, nous donne des conseils. Et il faut lui faire confiance. Si on lui fait confiance, d'après ses conseils, ça roule. Proverbe chapitre 3. Mon fils. Déjà, ça commence bien. Tout à l'heure, Manine parlait que Dieu était comme une mère qui allait de ses enfants. Il est comme un père aussi. Là, je rajouterai ma fille, mon fils, ma fille. N'oublie pas mes enseignements. Et que tout ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Mon fils, ma fille, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne te ferai point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, ma fille, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de ton embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain « va et reviens », demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est l'ami pour ceux qui sont droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison des méchants, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés, la honte, sera leur partage. Il y a dans ce passage une exhortation à la confiance en Dieu. Surtout dans ce passage où il est dit « Confie-toi en l'Éternel ». Pas à moitié, mais de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Cela ne veut pas dire, bien entendu, que tout va aller super classe, super bien, parce que dans la sagesse de Dieu, il y a aussi la souffrance qui joue un rôle très important. Pour nous, cette souffrance, elle est importante parce qu'elle nous emmène à la ressemblance de Christ. Dieu est digne de confiance, même si la vie ne nous donne pas ce que nous aimons. Exprimer sa confiance en Dieu, c'est croire en sa parole, avoir confiance en sa parole, au point d'y obéir. J'ai confiance, j'obéis. La parole de Dieu est comme un phare au milieu de la tempête. Jésus dira, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Il n'y a pas d'amour pour le Seigneur dans la désobéissance, mais il y a de l'amour pour le Seigneur dans la repentance. Ce psaume nous implique, quelque part, non seulement à lui faire confiance, à avoir confiance, à le suivre, à croire, à parler, à s'appuyer sur lui. Il faut avoir confiance. L'apôtre Paul, qui a dit au gardien de la prison, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut avoir confiance. Nous sommes appelés à avoir confiance en lui, dans l'adversité, dans nos choix. Et comme il nous le rappelle au verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies. Pourquoi placer sa confiance en Dieu? Parce qu'il nous a tout donné. Dans Romains au chapitre 8 et au verset 32, il nous dit ceci. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Pourquoi lui faire confiance? Parce qu'il règne. Dans le psaume 115 au verset 3, notre Dieu est aux cieux, il fait tout ce qu'il veut. Mais encore, parce qu'il revient aussi, comme on l'a chanté tout à l'heure, écraser le mal et son auteur. Romains chapitre 16, verset 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Ce que nous pouvons bénéficier de cette confiance, c'est déjà que Dieu nous considère comme ses enfants, comme ses fils, comme ses filles. C'est un grand bénéfice, une grande grâce. Et il nous invite à ne pas mépriser la correction de l'Éternel et de ne pas nous effrayer de sa réprimande. Dieu nous traite comme des pères, il nous corrige pour nous faire grandir. Il n'existe pas d'apprentissage de la vie sans erreur, et encore moins sans péché. Le Seigneur permet des passages douloureux. Le Seigneur nous reprend dans notre conscience. Dieu dit dans sa parole, je redis, « Mon fils, ma fille, » et j'irai pour ceux qui sont parents, que nous puissions parler avec affection à nos enfants, que nous ayons le souci de leur marche, de leur vie spirituelle, que nous puissions les encourager à réfléchir à la vie dans tous ses aspects. Comme dit le psaume, garde la raison et la réflexion. Ce psaume nous indique aussi à faire confiance au Seigneur en mettant de la distance avec le mal. Ne sois pas jaloux de l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur l'homme pervers, mais son intimité est pour les hommes droits. Dieu n'abandonne pas les siens. Il leur demande de placer leur confiance en lui. Mais alors, parfois, les gens vivent des situations tellement difficiles que je me dis, mais où est-ce qu'ils vont trouver les ressources pour se sortir de là? On a des exemples dans la Bible. Et en allant dans mon quartier, j'ai rencontré aussi des exemples. Et puis aussi en allant à Paris aussi, j'ai croisé un exemple de frères et de sœurs qui vivent des choses difficiles. Donc on a des exemples dans la Bible. Ruth, le livre de Ruth, il y a une femme qui s'appelle Naomi. Et Naomi a perdu ses deux fils. Et elle a perdu son mari. Et elle a même demandé à la finale à ses belles-sœurs, écoutez, vous pouvez rentrer chez vous, retourner chez vos parents, laissez-moi seul. Dans le livre de la Genèse, on a une autre femme, Agar. La Genèse nous raconte que Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau. Je me rappelle des fois quand je vous spétais, quand j'étais petit, pour manger des choses avec des légumes, des trucs comme ça. Ma mère me disait, ah, si tu continues comme ça, tu auras du pain sec et de l'eau. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar. Il plaça ça sur ses épaules. Même pas il va lui donner un âne ou un bourricot pour transporter. Non, non, il met ça sur ses épaules. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et alla s'asseoir vis-à-vis à une distance d'un arc. Car elle disait, « Je ne veux pas voir mon enfant mourir. » Dans le livre de Samuel, il y a une autre femme. Pas fait exprès. C'est venu pour ça. Anne. Elkana, un homme qui s'appelle Elkana, avait deux femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter contre l'Éternel parce qu'elle n'avait pas eu d'enfants et qu'elle était stérile. Trois femmes dans le désespoir. Trois situations différentes, mais avec une profonde douleur dans le cœur. Naomi n'avait plus d'espoir, pas d'espérance de changement dans sa vie. Elle marchait dans l'amertume, et tellement qu'elle marchait dans l'amertume, elle s'est dit, je vais changer de nom, je vais m'appeler Amertume. C'est Madame Amertume. On a tous connu plus ou moins Monsieur Aymar. Vous l'avez connu, Monsieur Aymar, dans votre vie. Vous l'avez croisé au moins une fois. Jean Aymar. Non, ça vous dit quelque chose? Non, vous l'avez croisé au moins une fois dans votre vie, Jean Aymar. Donc, j'espère qu'au milieu de nous, il n'y a pas de Madame Amertume ou de Jean Aymar pour l'instant. Tout ce qu'elle avait construit, son foyer, ses enfants, parle de Naomi, tout ça, envolé, disparu, parti en fumée, il n'y a plus rien. Alors, retourner dans cette situation au pays, alors déjà chez nous, chez les Arabes, vous savez, on dit le nif, la fierté, c'est-à-dire quand je vais au pays, c'est le nif, la fierté. Je viens pas comme un clochard ou non. C'est tout ce qui est négatif, tout ça, je le cache, je le planque et tout. Quand j'arrive au bled, j'arrive comme ça. Retourner au pays, c'est pas facile pour Naomi. C'est pas facile pour elle. Elle avait sur ses épaules l'échec et la solitude. Tout ce qui lui restait. Comment pouvait-elle avoir encore confiance en Dieu? Voilà, perds tes enfants, perds ton mari, tout s'écroule, tout s'effondre. Elle a même dit, parce qu'à un moment donné, elle croit vraiment que c'est l'Éternel qui a frappé sa famille, et elle dira, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Donc vraiment, elle était mal. Elle a perdu sa confiance en Dieu. Elle ne peut plus croire, car il n'y a plus rien dans sa vie. Et plus rien sur quoi s'accrocher. Il lui reste juste l'échec et la solitude qu'elle traîne avec elle dans son amertume. Comment faire pour avoir confiance en Dieu quand on tombe au fond du trou? Agar, une esclave que sa maîtresse a donnée à Abraham pour porter des enfants à sa place. Elle n'a pas refusé, elle a dû accepter la situation. Et puis à la finale, elle se fait virer avec son enfant, avec pour nourriture du pain et de l'eau. Abandonnée au milieu du désert, quand elle a compris que la vie de son enfant allait s'éteindre, et beaucoup de mamans peuvent comprendre ça, quand ton enfant est en souffrance, quand ton enfant passe par des moments difficiles, les entrailles de la maman sont remuées, bien plus que celui du père. Et bien du coup, elle a préféré s'éloigner pour ne pas voir son fils mourir. Pouvait-elle encore avoir confiance en Dieu comme ça, au milieu du désert? Plus d'eau, plus de pain, plus rien. Comment avoir confiance? C'est pas possible. Pourtant, elle aura plus tard cette promesse, « Je multiplierai ta descendance et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » Anne, elle avait un époux qui l'aimait, mais elle était malheureuse, elle était triste, et elle pleurait souvent, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. En plus, elle devait partager son mari avec Pénina, qui se moquait d'elle, à cause de sa stérilité. Une situation difficile, un cœur plein de tristesse. Elle allait pourtant tous les ans avec son mari au temple. Elle priait, peut-être certainement depuis longtemps qu'elle priait, pour avoir un enfant. Mais elle ne voyait aucun résultat de ses prières. Est-ce qu'on peut s'imaginer l'état de son cœur, cette souffrance continue qui vous fait perdre même l'envie de se nourrir? À un moment donné, elle ne mangeait plus. Pouvait-elle avoir confiance en Dieu? Pouvait-elle encore croire après et surtout les paroles du prophète Élisée, qui a cru qu'elle était ivre, parce qu'elle priait dans son cœur, mais ses lèvres remuaient. Alors il a dit, allez, va cuver ton vin ailleurs, elle n'était pas ivre. Parfois la souffrance est tellement grande, tellement accrochée à notre cœur, que nous perdons confiance dans la réalisation des promesses de notre Dieu. Nous perdons la vision dans notre vie, et nous devenons lourds, mais lourds d'amertume. Lourds d'amertume, lourds de chagrin, et nous nous éloignons de toute espérance. Car à quoi bon espérer, à quoi bon croire, quand on voit que tout autour de nous, il se passe le contraire? J'ai rencontré une sœur en Christ dans mon quartier là-bas, où j'habite, qui depuis, je dirais 2-3 mois environ, une sœur en crise qui était attachée au Seigneur, qui était attachée au Seigneur, augmenter le micro parce qu'il y a quelqu'un qui n'entend pas là-bas au fond, sinon tu t'approches ici. Qui était attachée au Seigneur et qui était, comment on dit, qui était enthousiasme, qui était pendant des années. Et quand je l'ai croisée là, elle était déprimée. Elle était triste, pleine d'amertume. Elle a tout abandonné. Elle a abandonné sa Bible. Elle a abandonné l'Église. Elle a tout laissé de côté. Je lui ai dit, ça va ? Il m'a dit, mes enfants, oui, ça va. Mais moi, non. On a des situations juste à côté de chez nous qu'on n'a pas besoin de chercher dans la Bible. On les a à côté de chez nous. Nous vivons parfois des situations difficiles à cause de nos enfants, de notre couple, la famille, le travail, ou parfois on se retrouve dans une situation précaire. Se retrouver dans une situation précaire. Pas de travail, pas de logement, ou alors on habite chez un tel et un tel. Ça existe. Parfois nous sommes incapables de faire quelque chose, car nous n'avons plus la force, plus d'espoir, plus de confiance. Et du coup, on ne croit plus, on n'espère plus. Notre confiance et notre confiance dans les promesses de Dieu diminue jour après jour, jusqu'à s'éteindre. Comme dit le Seigneur, je n'éteindrai pas l'illuminant qui fume encore, heureusement. Quand nous sommes allés à Paris, on a fait une halte du côté de Lyon, et puis on a pris un hôtel là-bas à Lyon, et puis on s'est rappelé qu'on a des frères et sœurs là-bas, et donc on a contacté une sœur, on a dit, écoute, on est à Lyon, on voudrait bien te voir. Elle a dit, ah oui, mais moi je suis pas à Lyon, je suis à l'île d'Adam, non. Comment ça s'appelle ? L'île d'Abo. Je suis à l'île d'Abo, c'est beaucoup plus loin. Je dis, ah mince. Voilà. Elle dit, c'est pas grave, mais pour le retour, passez-nous voir. Elle dit, ok, d'accord. Elle dit, oui, pas de problème, de toute façon, il y a de la place, vous venez, et on se voit. Je dis, ok. Et donc sur le retour, on a appelé et tout. Et du coup, elle nous a accueillis comme des princes et des princesses. Vraiment, porte ouverte, la classe. Elle a pris ses enfants, elle les a mis sur un matelas au sol, et elle a donné ses lits à mes enfants. Nous, on a fait grand lit, clic-clac, machin, qui, hop, petit déjeuner top, voilà. Et pourtant, après discussion, même pas après discussion, déjà à la base, quand je suis allé à la salle de bain pour faire ma toilette, tout ça, j'ai dit, oh, il y a un souci. J'ai dit, il y a un fil qui tient le robinet parce qu'apparemment il y a des fuites. Il n'y a pratiquement pas de meubles. Tout est vétuste. J'ai dit, il y a un souci. Et puis en discutant avec eux, lui, il ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Ils ont deux enfants. Et ils vivent avec le RSA. Ça ne les a pas empêchés de nous emmener dans leur église, louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Voilà. Je me dis, Seigneur, merci, comme on disait tout à l'heure, pour la vie, pour le vêtement, pour la nourriture, pour le travail. Merci Seigneur. Mais je vois qu'il y a des chrétiens vraiment qui vivent des choses difficiles. Comment ils vont se sortir de là? Et comment le couple va passer à travers ça? Tout en restant soudés. Naomi a retrouvé sa confiance en l'Éternel lorsque sa belle-fille a rencontré Boaz. Boaz a épousé Ruth. L'Éternel a permis à Ruth de devenir enceinte et elle a mis au monde un fils. Et les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé. » Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Dieu a fait ressortir de grandes bénédictions à travers la tragédie de Naomi. Agar, à travers la bouche de son enfant, a été aussi entendu par l'Éternel. Il est venu à son secours au milieu du désert. Il a fait jaillir un puits et Agar a pu puiser de l'eau pour en donner à son fils. Voilà la bénédiction que reçut Agar. La vie de son fils a été préservée malgré le désert qui l'entourait. Dieu est venu à son secours. Anne, malgré les paroles blessantes du sacrificateur Élie, après avoir répandu son cœur devant l'Éternel, par la suite, elle est devenue enceinte. Elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Et Samuel, qui est devenu le plus grand juge d'Israël. De son cœur délivré de la tristesse, de l'amertume, a jailli une prière, la prière d'Anne. 1 Samuel chapitre 2. Cette prière qui a jailli de son cœur et qui révèle la puissance de notre Dieu. Trois femmes, sans compter les deux autres que je vous ai parlé, trois femmes, trois souffrances et trois délivrances de la part de l'Éternel. Ça va ? Alors que nous puissions, nous aussi, dans des circonstances parfois difficiles, et on n'est pas encore tombé jusqu'à là, quelque part, que nous puissions aussi, dans ces moments difficiles, nous attendre à l'intervention du Dieu vivant. Même quand nos yeux terrestres ne voient que la noirceur, des situations, nous sommes aussi appelés à construire, à reconstruire notre confiance en Dieu. Seulement par sa seule puissance, dans l'amour qu'il a pour nous et dans l'écoute. Il veut agir, mais parfois nous ne le laissons pas faire, car nous croyons pouvoir résoudre certains de nos problèmes. Nous croyons encore en notre humanité, nous croyons encore en notre sagesse, et on oublie celui qui peut tout. Laissons au pied de la croix toutes ces situations qui nous font souffrir. Abandonnons l'amertume, ce mal qui nous ronge et qui nous détruit, et laissons Dieu agir. La confiance en Dieu se nourrit d'attitude et d'action. La confiance en Dieu engendre des conséquences positives. La confiance en Dieu se démontre par des décisions concrètes. La confiance en Dieu se démontre par des décisions concrètes. La vie est difficile, les choix sont parfois pénibles. La confiance a un coût, elle a aussi un bénéfice. Et pour conclure, que ce soit Naomi, Agar ou Anne, ou n'importe quel d'entre nous, je sais une chose dont je suis sûr, c'est que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Et elle n'est jamais trop courte. Laissons-le faire. Merci.